Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions L'amour dans le couple, Marie Binet reçoit aujourd'hui le père Michel Martin Prével. Ils ont écrit ensemble un ouvrage intitulé « Grandir en couple » paru aux éditions des Béatitudes. Marie Binet, père Michel Martin Prével, bonjour à tous les deux.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
Eh bien bonjour à tous.
Alors aujourd'hui nous allons aborder ensemble un thème qui finalement nous concerne tous à un moment donné, c'est celui de devenir adulte et s'engager. J'accompagne régulièrement des hommes et des femmes qui ont juridiquement l'âge adulte, c'est-à-dire dans notre pays, en France, plus de 18 ans. Ils ont une vie sociale et professionnelle qu'ils vivent de manière indépendante et a priori sans trop de problèmes. Ces adultes consultent, car ils n'arrivent pas à se fixer dans une relation ou bien à s'y impliquer, s'ennuyant bien vite, disent-ils. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie et qui fait qu'en effet, ils sont assez instables affectivement. Alors, adulte vient du latin adultus, qui a fini de grandir. Physiquement, oui, dans sa personnalité et sa croissance, ce n'est pourtant jamais fini. C'est un processus de croissance par lequel nous passons tous. Cet état de notre vie n'est pas atteint au même âge, par tous, suivant les époques et les lieux. Au XIXe siècle, par exemple, l'âge adulte correspondait à peu près à la puberté, 12 ans pour les filles, et au Moyen-Âge, c'était même 14 ans pour les garçons, rendant possible les mariages après 15 ans pour assurer bien sûr une descendance avant une mort précoce ou la prise d'habits ou les armes s'il ne se passait rien. On juge donc de cet âge adulte essentiellement sur des critères physiques et physiologiques. Pourtant, on s'en aperçoit bien aujourd'hui, ils ne suffisent pas à se déclarer adultes. Depuis les années 60, on parle d'une période entre 18 et 25 ans et qu'on nomme un peu plus adolescent, c'est-à-dire une progressivité plus lente pour atteindre cet âge de maturité. Or, on le sait, la maturité du cerveau, on le sait par les neurosciences aujourd'hui, c'est 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons. Ce qui explique encore des décalages au début de la vie adulte entre hommes et femmes dans cette maturité affective et aussi des prises de risques qui demeurent assez tardivement chez les garçons. Souvent, les jeunes voient l'âge adulte comme un âge d'indépendance et de stabilité, une autonomie acquise par des moyens financiers et un engagement dans une vie affective en dehors de la famille. C'est souvent le reflet aussi, parfois, d'un manque de maturité et des grandes illusions qui s'énoncent. En croyant qu'on peut partir de chez soi en ayant un travail, ça y est, on est devenu adulte. Et souvent, l'adulte en face de moi est encore dans des attitudes soit infantiles, soit adolescentes. Il recherche le plaisir immédiat sans effort. Il veut avoir le moins de contraintes possibles, et surtout, ne pas avoir à assumer des responsabilités trop lourdes qui contrarieraient sa liberté d'agir et de décider par lui-même. Mathilde a 30 ans. Elle a déménagé loin de chez elle parce qu'elle voulait faire une expérience professionnelle dans le libéral. Et finalement, au bout de 4 ans, elle se rend compte qu'elle n'ose pas acheter un appartement, que sa vie sociale se passe bien, mais qu'elle n'arrive pas à se fixer dans une vie affective. Elle est dans une instabilité qui fait que régulièrement, tous les 3-4 mois, elle fait une nouvelle rencontre. Et elle se dit même que ce serait quand même plus agréable de retourner dans sa famille, le vrai cocon, on s'occuperait d'elle, on l'aiderait à faire des travaux et à prendre une décision pour choisir un appartement. Elle me dit se dire libre. En fait, elle se croit libre, elle ne l'est pas. En effet, elle est plutôt contrainte par ses peurs, par son besoin de sécurité. Et elle reconnaît qu'elle contrôle tout, aussi bien dans sa vie affective que dans le reste de ses relations. Elle fuit les difficultés, d'où son désir de revenir dans le cocon familial. La plupart du temps, ces adultes qui n'en sont pas encore complètement aimeraient bien une vie bisounours, qui serait tranquille, apaisée. Chez certains, surtout chez les hommes, on parle d'un syndrome, le syndrome de Peter Pan. Il peut apparaître et se développer et perdurer assez longtemps, jusqu'à même quelquefois la cinquantaine. Certainement, vous vous rappelez du dessin animé Peter Pan. Il vit au pays des rêves avec sa petite troupe d'orphelins qui l'admirent. Et une petite fée, la fée Clochette, est amoureuse, possessive de lui. Elle ne veut pas qu'il parte. Elle lui fait même miroiter plein de plaisir et beaucoup de belles choses. Il passe ses journées à rire, jouer et se battre sans but. Un jour, Wendy arrive, et après s'être bien amusée aussi, parce que bien sûr, c'est agréable cette vie-là, elle décide quand même de revenir chez elle. Tous les orphelins la suivent, heureux de trouver l'amour dans une vraie famille. Mais Peter Pan refuse les contraintes d'une vie de famille bien rangée. Il renonce à un amour stable et fiable, influencé par la fée Clochette qui le retient malicieusement. Bien sûr, la fée Clochette est la rivale de Wendy, qui est bien sûr trop sage et trop gentille. Donc des Peter Pan qui ont une croissance difficile à faire, j'en rencontre. Comment faire? C'est bien la question qu'ils se posent. Comment faire pour grandir? Ces adultes qui zappent dans leur relation amoureuse s'en éloignent dès qu'elles commencent à s'installer par peur de l'ennui, parce que c'est bien plus intéressant de vivre une intensité. Pauline, par exemple, se plaint de ne jamais garder un homme qui lui veut du bien. Elle ne pense pas mériter à ce point cet amour et fuit tout attachement de peur d'être déçue, rejetée. Bref, elle se tire une balle dans le pied toute seule. Elle se croit tellement transparente depuis qu'elle est toute petite qu'elle ne peut pas croire qu'on lui prête une telle attention et finalement, elle préfère rester dans une attitude infantile pour se faire remarquer en se plaignant souvent. Être adulte, s'agirait-il seulement de la fin de l'enfance et de l'adolescence? C'est ce que croit Gérard, qui arrive à 48 ans et qui me dit « Je ne comprends pas, je suis à nouveau dans une vie de couple, tout se passe bien, mais j'ai envie d'en partir. » Tout se passe bien, il est chef d'entreprise, il a déjà eu un enfant, et finalement, il se rend compte qu'il n'est jamais heureux. Alors bien sûr, être adulte, c'est un saut dans l'inconnu, un vide que l'on doit remplir d'abord par soi-même et en soi-même avant de le demander à l'autre. Alors, quand on a peur de monter cette marche, ou que cela semble insurmontable pour soi-même, comment l'envisager à deux? Eh bien, justement, à deux, on va plus loin, on s'entraide, on se soutient dans cette croissance qui continue bien tardivement. On n'a jamais fini de grandir. On apprend de soi, des autres, et on avance. Et quand on est encore dans une phase adolescente, on a du mal à le percevoir et à y croire. Avancer, devenir adulte, c'est accepter de quitter. À l'âge adulte, c'est quitter les conforts, les caprices, les illusions de l'enfance, accepter ses blessures et se réconcilier avec son passé, et ainsi librement s'engager dans la vie. Comme je vous disais tout à l'heure, pour Mathilde, même acheter un appartement semblait impossible, trop risqué. Elle disait, c'est dangereux. Oser s'engager dans sa propre vie, c'est mieux se connaître dans ses forces et ses fragilités. C'est respecter ses valeurs et faire des choix qui correspondent à sa mission et à sa personnalité. L'enfant ne le peut pas, il dépend des adultes. L'adulte le peut, il dépend d'abord de lui-même. S'engager en actes, en paroles et en gestes, voilà ce qui caractérise une relation amoureuse adulte qui s'installe dans le temps. Elle demande une implication de tout son être, son esprit, son cœur, son corps. L'engagement, avant d'être scellé par un acte d'état civil ou le sacrement à l'église, est un choix personnel et libre. Alors, pour faire un choix, il faut pouvoir d'abord discerner. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis prêt à me donner, à persévérer, à recevoir, à affronter des épreuves, à croire en l'amour malgré tout, à croire en moi et en l'autre imparfait? Pour certains, ce discernement est comme une montagne infranchissable. Et si je regrettais? Et si cela se passait mal? Et si je passais à côté de quelqu'un d'autre? Et oui, on ne peut pas mentir, il y a une prise de risque. C'est une aventure dont on ne connaît pas les lendemains, mais on peut décider que ces lendemains soient beaux à deux. Et on peut aussi voir cette aventure comme une chance d'enrichir sa vie avec l'autre et d'enrichir la vie de l'autre. S'engager, c'est accepter de remettre sa vie en confiance à l'autre et accueillir l'autre ainsi. Ce n'est pas se déposséder de soi, c'est souvent une des peurs d'ailleurs. C'est mettre en commun, partager. Et quand je parle de confiance, c'est d'abord une confiance en soi, se sentir appelé, capable et osé. Quand on est chrétien, on n'est pas seul. Le soutien de la prière, des sacrements, permet de confier ses peines et aussi de rendre grâce pour les joies et de continuer à croire fidèlement en cette relation décidée à deux un jour. Alors aujourd'hui, l'engagement, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est l'engagement dans un travail, mais on voit que la nouvelle génération est souvent, pareil, dans une forme de changement. On peut changer de travail dès qu'on en a assez, dès qu'on s'y ennuie. Eh bien, il y a une forme de consommation aussi dans les sports, dans les loisirs, dans la vie sociale et dans la vie amoureuse. L'engagement en couple aujourd'hui, du coup, prend plusieurs formes. C'est d'abord présenter l'autre à sa famille. C'est un premier engagement qui est souvent vécu comme tel par les jeunes. Ensuite, c'est vivre une première relation sexuelle. C'est ensuite s'installer ensemble. Mais ça peut être aussi se paxer. Le pax aujourd'hui devient une forme de fiançailles. Pour d'autres, les fiançailles sont encore une marque d'engagement. Mais pour certains, surtout après 30 ans, s'engager, c'est acheter un appartement en commun. C'est avoir un enfant. Puis, ça peut être adopter ou élever l'enfant de l'autre quand on est en famille recomposée. Et puis, bien sûr, c'est se marier. L'engagement peut aller bien plus loin. C'est aussi accepter de prendre le parent vieillissant de l'autre à la maison. Et puis l'engagement peut aller jusqu'à accepter d'aller voir un thérapeute de couple ensemble. On remarque un engagement, je tiens à toi, je tiens à notre relation, je veux aller plus loin. Alors cet engagement demande une liberté, celle de vouloir faire les choses. Quand on vient dans mon cabinet en couple et qu'il y en a un des deux qui n'a pas envie, le travail ne peut pas se faire. C'est un choix face à des contraintes, car il faut se remettre en question, mais en perspective de joie à venir. Cela demande la confiance, comme je le disais, une foi qui soutiendra dans les épreuves. Alors, l'engagement est souvent difficile parce qu'on a peur de perdre cette liberté. Et c'est justement là que la personne n'est pas libre. Elle reste attachée à ses peurs et ses mécanismes de protection en se bloquant, en se repliant sur elle-même, au lieu de se remettre entre les mains d'un ou d'une autre, sans s'y perdre, bien sûr. Alors, quand même, les jeunes ne s'y trompent pas trop aujourd'hui. Je voudrais rester optimiste. Il y a toujours un vif désir de s'engager. Et cela a tellement de valeur qu'aujourd'hui, ils prennent beaucoup plus leur temps et s'engagent beaucoup plus tard. Malheureusement, peu de couples discutent des termes de leur engagement et parfois cela dérape. Le travail de certains conjoints sera de faire ou refaire leur contrat conjugal avec un nouveau projet à la clé afin que leur relation retrouve une vitalité et eux la joie à nouveau d'être ensemble. L'engagement demande aussi une fidélité, et d'abord à soi, pour être en vérité et authentique dans sa parole et ses actes. Puis une fidélité à l'autre, envers qui on s'engage à se donner. Et enfin, une fidélité envers la relation qu'on s'engage à nourrir en s'impliquant dans son bon fonctionnement au quotidien. Bien sûr, les épreuves existent et viendront perturber les conjoints. Être adulte, c'est aussi faire face et être en face à face pour faire équipe et traverser les passages compliqués. Cela passe par des conversations où chacun peut se dire, s'affirmer sans peur de l'autre et sans écraser l'autre. C'est aussi cela, être adulte dans une relation engagée. Et vous, quels sont les termes de votre engagement? Est-il toujours valable? Quelles évolutions seraient à prendre en compte? Une belle occasion de discuter de cœur à cœur durant un week-end en amoureux. Père Michel Martin Prével, je parlais de l'engagement et de tout ce que ça pouvait impliquer. Alors finalement, aujourd'hui, comment accompagner les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, puisque comme je disais, l'âge de l'engagement est de plus en plus tardif, vers cet engagement de couple, de famille, en acceptant de choisir, et peut-être de renoncer aussi, mais aussi d'ouvrir des possibles.
Oui, Marie, vous avez très bien décrit ces questions que l'on voit bien, qui sont soulevées aujourd'hui dans une génération peut-être plus jeune, peut-être parce qu'il y a des fondements qui sont très importants dans l'engagement, notamment vers le mariage. Ce sont ces questions de liberté que vous avez abordées, et aussi la fidélité. Alors, on voit bien qu'il y a ce nœud qui s'appelle l'engagement et qui fait très peur, surtout qu'aujourd'hui, on le chosifie énormément dans le jour du mariage. Alors, donc, il faut sortir de ces peurs, en fait, parce qu'il y a, je crois, de la peur, alors que par ailleurs, il y a en même temps une très grande envie de vivre le mariage pour toujours. Parce que vous avez peu parlé de l'amour, mais l'amour est dans tout ça, en fait. Parce que l'amour, c'est ce qui fait qu'on s'engage. C'est aussi parce qu'il y a de l'amour qu'il y a aussi la notion de liberté, puisqu'on ne peut pas aimer sans être libre. Alors, pour nos jeunes qui sont souvent dans cette phase un peu de progression, on va dire, vous avez raison, il y a une progression souvent qui se fait avant qu'ils arrivent vraiment à s'engager, puisque ce qu'on peut appeler des fiançailles aujourd'hui, ça peut durer des années. Et donc, c'est à la fois parce qu'il y a de la peur que l'engagement ne se fait pas vite, mais en même temps, heureusement, avec une certaine maturité, cette maturité qui est propre justement à l'adulte qui se fait progressivement. Donc, quand cette maturité commence à se faire, de fait, on découvre peut-être, et il faut le faire le plus vite possible, mais on découvre qu'il faut être libre pour aimer. Être libre, c'est justement pouvoir s'engager, car il faut être libre pour s'engager. Mais curieusement, et c'est paradoxal pour moi, quand on s'engage, de fait, on a comme l'impression que l'on abandonne sa liberté. En réalité, s'engager avec quelqu'un, c'est lui donner notre liberté. Mais ce qui est génial, et parce qu'il y a une réciproque, en donnant ma liberté à l'autre, c'est curieusement comme ça que je la retrouve. Et particulièrement dans la fidélité, parce que c'est tous les jours que je me réengage. Peut-être qu'il faut ajouter ça à ce que vous avez dit, c'est que l'engagement ne se fait pas en une fois. Et c'est ça qui fait peur. En réalité, il va se faire tous les jours. C'est continu. De même que l'amour, ça va être quelque chose de continu. Et quand on
Oui.
se marie, c'est pas en un jour. C'est justement, c'est parce que c'est pour toujours. Et ça, les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup que l'amour ce soit pour toujours et pas pour un moment et en gardant ses doutes bien bien au chaud dans sa poche.
Il y
Alors
a une
s'il y a une
forme,
folie, il y a une folie là-dedans,
oui, il
n'est-ce
y a une
pas?
folie et une forme d'ambivalence du coup dans ce que vous dites, puisque en effet les jeunes veulent cet amour, mais souvent il est assez idéalisé, romantique et du coup
Tout à
assez
fait.
immature. Et en même temps, ils ont envie de s'y plonger en ayant la peur de toutes ces contraintes. Et c'est vrai que l'amour adulte, c'est d'accepter que cet amour soit fluctuant, imparfait, qu'il soit accompagné, je dirais, de contraintes, mais en même temps, qu'il soit, quand je disais une ouverture des possibles, c'est ce que vous dites, c'est que se donnant l'un à l'autre, on ouvre une porte encore plus grande pour soi et pour l'autre.
Oui, c'est ça. C'est là qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que l'engagement, ça fait une fermeture, sorte d'entonnoir. Je prends l'image de l'autoroute, vous voyez, où on voit, on s'aperçoit sur les bords d'autoroute qu'il y a des glissières de sécurité. Alors, elles sont de l'ordre des contraintes, ces glissières. Elles limitent un peu la liberté parce qu'il faut rouler dans un seul sens. Mais en même temps, ces glissières de sécurité, c'est ça qui fait l'autoroute, c'est ça qui donne aussi une sécurité. Et on le sait bien que pour beaucoup de jeunes, justement, ils vivent ensemble peut-être toutes certaines dimensions de l'amour, de la vie conjugale, et en même temps, ils n'ont pas de sécurité. Et il y en a qui sentent ça très vite, et il y en a même qui attendent avec beaucoup d'impatience que l'autre enfin s'engage, que l'autre enfin dise oui au mariage. Parce que souvent, vous savez, c'est un peu dissymétrique, ça. On voit souvent des jeunes filles qui ont envie de se marier. Puis c'est le garçon qui est très hésitant. Alors voilà, comment cet engagement, ce n'est pas un rétrécissement, c'est au contraire une ouverture, c'est ce qui fait que je suis bien sur une autoroute, et Dieu merci, l'autoroute, ça permet d'aller vite et loin.
Oui.
Donc il y a ensuite cette histoire de fidélité derrière.
Oui, alors justement, comment accompagner pendant l'engagement? Une fois que les conjoints se sont dit oui, ont décidé de partager cette vie, de la mettre en commun, comment les accompagner, sachant que bah, y a des moments ça va être un peu plus difficile, on aura envie de se mettre sur le bas-côté, sur votre autoroute.
Oui, eh bien, c'est vrai qu'il y a la question de la liberté, peut-être, dont on a trop dit qu'elle était une sorte de libre arbitre, où on a simplement cette capacité de choisir. Et si la liberté, ça se réduit au libre arbitre, qui est le fait de dire oui ou non, c'est parce que la liberté, c'est beaucoup plus que cela, que justement, c'est pas simplement avoir dit oui, puis ensuite je me trouve ligoté par mon propre oui, mais c'est au contraire poursuivre ce qui va faire mon bien. Alors quand je me lie avec quelqu'un, c'est là qu'il y a toute la puissance de l'amour, c'est que je crois que c'est ça qui est mon bien. C'est pour mon bien et pour le bien de l'autre. Et finalement, c'est aussi pour le bien du couple. Et ça, il y a une sorte de contemplation. Saint Thomas d'Aquin, il dit que l'œuvre de l'intelligence, c'est de contempler. Alors on voit bien, quand on découvre quelqu'un, on est comme dans une contemplation. Et comme la contemplation d'un merveilleux paysage, ça fait naître du désir, et c'est tout ça qui est la magie de l'amour, c'est que la liberté vient au secours de cela pour que, ayant contemplé, et j'ai contemplé l'autre, je le sais comme étant mon bien, comme quelque chose de bien et de bon, Il est bon que tu existes et je veux réaliser ton bonheur. Et tout ça, ça se traduit en termes de bonheur. Une fois que je suis dans cette contemplation, ça ne peut pas durer si je ne décide pas de prendre les moyens de suivre ce bonheur. Parce que ce bonheur, il se construit, il ne suffit pas simplement de le recevoir un jour. Et c'est parce qu'il va se construire tous les jours que l'amour prend une autre forme. Ce n'est pas simplement un plaisir que je vis provisoirement, mais c'est plus qu'un plaisir, ça devient un attachement que je construis justement par ma liberté qui se met en œuvre. Donc le jour où je m'engage, autrement dit, je ne perds pas ma liberté, au contraire, je lui donne toute sa possibilité de se développer. Alors voilà, toute cette, c'est de la philosophie en fait, c'est vrai, vous voyez, c'est de la philosophie, parce qu'il faut bien se mettre dans l'attitude profonde, comme vous dites, d'être dans une possibilité, mais tout commence. Quand on se marie, tout commence. C'est certainement pas là que ma liberté vient de s'arrêter. Au contraire, elle va se réaliser pleinement.
C'est pour ça d'ailleurs que certains se marient au bout de quelques années de vie commune. Ce n'est pas un départ, c'est une continuité. Oui. Et ça vient marquer une espèce de validation. C'est vraiment avec toi que je veux terminer ma vie.
Oui, parce qu'on ajoute au cœur, on ajoute la tête. À l'amour, on ajoute aussi la raison. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à dire que dans le mariage, dans le lien que l'on veut vivre avec l'autre, il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi la raison. Mais la raison, elle se met au service de l'amour, bien sûr, et elle le rend beaucoup plus fort.
Est-ce pas ça, justement, devenir adulte, c'est savoir utiliser cette raison, donner du sens pour justement avancer dans sa vie, mais aussi avancer avec l'autre? C'est ce que je remarque dans l'immaturité parfois d'adultes que j'accompagne, c'est qu'ils n'arrivent pas à donner du sens et ils sont dans l'instant présent, dans l'immédiateté, sans projection et sans se poser la question de qu'est-ce qu'il va se passer. Alors le but, ce n'est pas de passer son temps à penser à demain, mais c'est d'avoir un sens, une direction aussi à donner à sa vie.
Oui, alors ça quand même, ça se nourrit aussi des éléments que l'on a vécu avant. C'est pour ça qu'il faut un certain temps, une certaine maturité avant de se marier, parce que c'est notre éducation, c'est ce qu'on a vécu soi-même dans sa propre famille, qui nous a enseigné ces sortes de valeurs de base. Hein. Et quand on a été bien enseigné, bien élevé, comme on dit, on a reçu un peu ces valeurs sur lesquelles on comprend mieux ce qu'est l'existence. Et c'est ça qui peut nourrir après des relations beaucoup plus équilibrées, majeures. On est majeur quand on a quand même à aborder certains sens, certaines valeurs, certaines caractéristiques de ce qu'est la vie. Voilà, on n'est pas des sauvages, justement. On n'est pas des jeunes animaux lancés dans la vie simplement pour se nourrir et dormir. On a aussi tellement de belles choses à vivre. Et tout le domaine relationnel, il est nourri de ce que l'on a aussi appris. Et ça se fait beaucoup dans l'enfance et l'adolescence, tout ce qu'on apprend pour pouvoir être justement mûr avant de se marier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même s'inquiéter quand des jeunes se mettent trop tôt à s'engager parce qu'ils ont besoin de ce travail de l'expérience et de la raison pour pouvoir faire un engagement, comme on dit, beaucoup plus mûr.
Alors, c'est là aussi que des couples sont dans une forme, ils finissent par faire une erreur, hein, sans porter de jugement de valeur par rapport à ça, c'est qu'ils vont d'abord acheter un appartement ou une maison, d'abord avoir un enfant et s'engager après. Parce que pour eux, comme ce sont des engagements, c'est déjà fait. Or, une fois qu'ils s'engagent dans la relation elle-même, c'est là que souvent, il y a beaucoup de choses qui remontent et les premières crises, en fait, apparaissent réellement. Et c'est leur grande, grande surprise. Et dans ce que vous dites, c'est en effet que la relation paraît évidente parce qu'il y a de l'amour, mais finalement, elle n'est pas réfléchie, la raison n'y est pas. Et c'est une fois qu'ils y mettent la raison que du coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont posé des actes d'engagement qui n'étaient peut-être pas cohérents avec la réalité de ce qu'ils avaient envie de vivre. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un contrat, hein, entre le contrat moral dans le couple.
Oui, c'est ça. De fait, on peut penser souvent qu'ils mettent la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils posent des actes qui supposent qu'ils aient eux-mêmes d'abord fait ce contrat dont vous parlez. Parce qu'acheter un appartement ensemble, c'est quand même un acte assez majeur. Avoir un enfant, ça l'est pour moi encore plus. Alors ces actes-là, qui sont comme des fruits, des conséquences de l'engagement des époux, souvent, eh bien, c'est vrai qu'il faut le faire dans le bon sens, a priori. Et donc, c'est quand on a bien conforté son engagement qu'on comprend que c'est plus juste d'avoir quelque chose qui est en commun, qui est un enfant, un appartement, autre chose. Il y a un projet qui demande à ce qu'au départ, on soit bien sur la même base. Et c'est parce que les bases ne sont pas les mêmes que beaucoup de mariages finissent dans le mur, parce qu'il y a eu trop de divergences qui étaient déjà là au départ. Voilà.
Alors, merci Marie Binet et Père Michel Martin Prével. J'ai une question. Dans des médias généralistes, lorsqu'il est question de parler du couple, de l'amour conjugal, on entend parfois cette phrase, l'amour dure 7 ans. Et j'ai l'impression que ça suppose qu'il est normal qu'il y ait une séparation, une fin d'engagement au bout de 7 ans. Qu'en pensez-vous?
Alors aujourd'hui, en fait, on note qu'il y a plusieurs périodes. Les études qui ont été menées par l'INSEE sur les périodes de vie conjugale et de divorce, notamment, puisqu'on peut mesurer le taux de divorcialité. En fait, il y a plusieurs années qui sont sujettes à crise. Il y a souvent les 5 premières années ou 7 ans qui correspondent aujourd'hui à la venue du premier enfant. Donc c'est soit 5, soit 7. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se décale sur 10 ans. Parce que beaucoup de couples vivent ensemble très longtemps avant d'avoir un enfant. Ensuite, on a une très grosse période de crise conjugale qui est entre 15 et 20 ans de vie commune, qui est une période en fait de la quarantaine, on approche entre 40 et 50 ans, où il y a une remise en question personnelle très forte, la vie professionnelle est arrivée à son sommet, la carrière est en grande partie faite, donc il y a beaucoup de questionnements et de remises en question. Et ensuite, il y a une autre grosse période aujourd'hui qui est là depuis quelques années, qui est la période de la retraite, qui occasionne aussi beaucoup de séparations ou de remises en question de la vie conjugale, donc chez les plus de 60, 65 ans. Après, d'un point de vue physiologique, ça a été un peu étudié et beaucoup de bouquins sont sortis là-dessus. L'enfant a besoin que ses parents restent minimum 3 ans ensemble, puisque pendant 3 ans, l'enfant n'est pas capable d'être autonome. Ça, c'est la différence avec les animaux. Et au bout de 3 ans, le couple peut, au bout des 3 ans de l'enfant, le couple peut avoir tendance à se mettre un petit peu plus à distance l'un de l'autre, ayant moins besoin d'être dans les soins de l'enfant.
Alors justement,
Oui.
concernant les enfants devenus arrivés à l'âge adulte ou supposés adultes, certains peuvent justement être influencés par des exemples ou plutôt des contre-exemples familiaux avec peut-être des familles où il y a eu beaucoup de divorces. Donc on peut se dire, mais à quoi bon?
Non, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je constate. Les jeunes qui ont eu des enfants qui ont divorcé ont suffisamment souffert et ils n'ont pas envie de reproduire, mais ils ne sont pas forcément désespérés. Et ils sont plutôt dans une recherche. Ils ont faim et soif de cet amour, de cette stabilité. Et je pense qu'ils se posent peut-être mieux les questions que leurs propres parents.
Oui, tout à fait. Alors, bien sûr que vous avez dit, bien tracé ce qui se passe d'une façon un peu sociologique. Il faut ajouter aussi qu'il y a un ressort qui est intérieur à la vie à deux, qui est qu'il y a un effet de l'engagement sur l'amour et de l'amour sur l'engagement. Je veux dire que est-ce que c'est l'engagement qui fait l'amour ou est-ce que c'est l'amour qui fait l'engagement? On aurait tendance à penser que c'est d'abord l'amour qui ensuite fait l'engagement. Et ça, c'est vrai dans les premières années de la vie à deux. Mais c'est après, pourquoi ça dure? Parce que justement, dans l'autre sens, l'engagement finit par faire l'amour. Ça se confirme avec justement le mode de nos hormones. Hein, vous savez qu'au début, dans l'amour, on fabrique énormément de dopamine, qui est cette hormone qui favorise le sentiment amoureux avec ce transport de l'être, etc. Ça peut durer tout ça quelques années. C'est pour ça qu'au bout de 3, 5, 7 ans, parce qu'on fait de moins en moins de dopamine, on dit que le sentiment amoureux s'émousse. Ça, c'est un constat. Mais justement, il est relayé par une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui, elle, est l'hormone de l'attachement, qui fait qu'on va trouver du plaisir dans un amour qui se complète par un amour d'attachement. C'est ce que l'on retrouve aussi dans l'amitié. Et c'est parce que l'amour se complète qu'il se bonifie avec le temps, exactement comme le bon vin. On a le vin jeune qui est très agréable, mais le vin qui vieillit porte aussi un autre parfum, une autre idée. Donc, c'est autrement dit, c'est naturel que l'amour est à passer par des étapes et qu'il est de toutes les façons à croître. Et un amour qui ne croît pas, c'est sûr qu'il va dégringoler. Et c'est comme ça que l'on peut très vite baisser les bras. Quand on ne sent plus ce sentiment amoureux, on entend très, très souvent, vous savez, cette réflexion. Là, on s'aimait beaucoup, alors on a vécu ensemble, on a fait plein de choses. Maintenant, on ne s'aime plus, donc on se sépare. Et on y met là une certaine logique qui n'existe pas, parce que la cohérence ne se fait pas. La cohérence vient de ce que, à s'attacher et à vivre engagés l'un à l'autre, en réalité, on fait du bonheur. Voilà. Et c'est ce qu'on voit avec tous les vieux couples qui se parlent très peu, mais qui se comprennent très très bien. Ils ont fini par mêler deux vies avec beaucoup de bonheur pour l'un et l'autre. Et les jeunes couples, vous savez, quand on leur montre des couples anciens, ce qui les intéresse, c'est comment vous avez fait pour vivre si bien. Voilà. Alors les vieux couples, ils répondent, eh ben voilà, on s'est disputé, mais pourtant on est reparti parce qu'on répare. On est une génération qui répare, voilà. Et la réparation, vous savez, c'est le pardon, c'est le dialogue, ce sont tous ces moyens qu'il faut réenseigner au couple parce qu'il n'y a rien d'automatique dans l'amour. On aime finalement à la mesure dont on fait soi-même, hein, on est soi-même l'artisan de l'amour. L'amour, ça ne se reçoit pas simplement, ça se fait. L'amour est une action. L'amour, c'est un acte. Et donc, c'est une décision et c'est une volonté qui perdure.
Alors, nous avons reçu une question par SMS. Bonjour, comment éviter l'impasse à 54 ans de cultures différentes, entre parenthèses africaines, italiennes, lorsqu'il y a déjà des enfants et une relation difficile avec l'ex-femme? Nous désirons une vie commune, mais ça ne fonctionne pas. Quelles sont les bonnes priorités?
Alors, c'est toujours difficile. En tout cas, je remercie beaucoup hein, votre auditrice d'avoir envoyé cette question. C'est toujours difficile de répondre comme ça sur une situation personnelle. Il me semble bien sûr que chaque couple va vivre ses écueils, des différences de culture, des différences d'éducation, des différences de perception, de personnalité. Et c'est tout l'enjeu d'une vie à deux, c'est d'arriver à vivre ce mélange, cette mise en commun de toutes ces différences. Et bien sûr que c'est un enjeu fort parce que chacun va devoir faire un pas vers l'autre. Alors quand on n'arrive pas à le faire tout seul à deux, ben, ça vaut le coup de demander à un tiers d'accompagner, que ce soit un thérapeute, un prêtre ou peut-être même quelquefois un couple d'amis qui a pu vivre à un moment donné une situation similaire. En tout cas, il y a un des ennemis du couple, c'est le découragement et le désespoir. Et on peut facilement tomber dedans quand on a l'impression de buter, qu'on tourne en rond sur les mêmes difficultés. L'être humain a un cerveau très plastique et du coup une très grande capacité à pouvoir bouger, changer, évoluer. Et c'est cette foi-là que l'on peut mettre dans son couple, en l'autre et en soi. Si les deux sont d'accord pour faire cette évolution, tout est possible. Donc c'est déjà de commencer par se mettre d'accord. Est-ce que nous avons envie ensemble de trouver ce chemin commun et d'en prendre les moyens?
Oui, moi j'ajouterais que c'est ce couple dont vous parlez, c'est le fait que les différences sont à la fois une chance parce que c'est ce qui attire, c'est ce qui est souffert, c'est souvent c'est ça qui fait l'éclosion de l'amour, c'est qu'on voit l'autre comme différent et on est attiré dans cette différence. Et en même temps, la même différence peut aussi faire que l'on repousse. Alors c'est cette ambiguïté qu'il y a dans la différence, qu'elle est bonne et en même temps on la vit mal, on la vit comme une entrave et comme une difficulté. Ça veut dire que quand on a l'autre qui est différent, eh bien on s'aperçoit que ça fait des différends, justement, et ça peut aller jusqu'à des conflits. Non, j'ajouterais aussi que parce qu'on est différent, on a souvent cette tendance qui est finalement un peu égoïste, c'est de vouloir changer l'autre. Ça veut dire concrètement surtout pour qu'il me ressemble. Et justement, c'est ça qui est pas la loi de l'amour, c'est pas de se ressembler. La loi de l'amour, c'est de s'unir alors qu'on reste différent. Donc, ce qui fait la durée des couples, c'est quand on a compris qu'il faut pas changer l'autre. Mais il vaut mieux plutôt se changer soi-même pour s'adapter à l'autre. Voilà.
Alors, nous avons reçu à l'instant un SMS de Christelle. Bonjour, merci pour cette belle émission et tous ces éclaircissements. Finalement, avec les périodes que vous citez, si je comprends, toutes les périodes sont des périodes de crise, hormis celles avant l'arrivée de l'enfant. Je comprends mieux le fait de redonner son engagement tous les jours, sinon le mariage peut donc effectivement se terminer à chaque instant. Ça me fait penser à l'acte de foi que nous devons renouveler chaque jour. Donner notre oui tous les jours au Seigneur et travailler pour que notre foi grandisse, sinon on la perd. Le Christ m'aide beaucoup à choisir à nouveau mon mari chaque matin dans la prière et c'est signé Christelle.
Merci
Ah
beaucoup,
ben voilà,
Christelle.
voilà une très belle réflexion.
Un beau témoignage. Alors bien sûr, c'est, je dirais, avoir un nouveau regard tous les matins sur l'autre, sur la relation. Et bien sûr que ce n'est pas toujours facile, hein. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que la vie de couple est passionnante. Et c'est passionnante parce que justement, elle n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Sinon, réellement, on s'y ennuierait. Quand un couple me dit qu'il s'ennuie, souvent je leur dis, comment s'ennuyer avec justement nos différences et toutes nos compétences et nos talents? Et c'est souvent parce qu'on ne les remet plus au cœur de la relation conjugale. Donc oui, tous les matins, se lever et se dire, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de faire et de donner pour que ma vie de couple soit joyeuse?
Eh bien, je crois que c'est une très belle conclusion à notre émission. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Marie Binet. Merci, Père Michel Martin Prével. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit tous deux un ouvrage intitulé Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup.
Merci à tous et je vous souhaite une belle journée au mois prochain.
Merci, à
Au
très bientôt.
revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'amour dans le couple avec Marie Binet qui recevait aujourd'hui le Père Michel Martin Prével. Ils ont écrit tous deux un ouvrage intitulé Grandir en couple aux éditions des Béatitudes et notre thème d'aujourd'hui était l'engagement, s'engager en actes et en paroles, devenir adulte. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.